Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est 23h41 en France. Il est 17h41 ici dans le studio américain de l'After. Daniel Riolo est là, Samuel Umtiti avec nous également. L'After qui évidemment est là jusqu'au bout de la nuit, parce qu'à 1h du matin tout à l'heure on suivra le 16e de finale entre le Portugal et la Croatie. D'ailleurs d'ici 1h on sera avec Gareth de Jesus, il nous dira tout de ce qui se passe au Portugal, où on en veut beaucoup aux sélectionneurs, hein. Là on est, j'ai l'impression qu'on est sur une sorte de Domenech portugais, qu'il est détesté par tout le monde.
Franchement, d'abord il y a les prestas. Deux, il y a ce qui est sorti de sa relation avec Cristiano Ronaldo. Comment veux-tu que ça ne frise pas le scandale? Pour quand une affaire comme ça sort, si derrière c'est pas une autoroute où tout le monde est ravi du jeu de l'équipe, tout le monde est ravi de la star, là, Dalida.
Oui, c'est comme ça que tu appelles Cristiano Ronaldo désormais.
Il faut que ce soit béton. On peut pas apprendre comme ça que l'autre il va rejoindre le club de son joueur. Enfin, franchement, c'est limite en politique, on serait quoi, en plein conflit d'intérêts là?
Ah oui, là, je pense que c'est le mot qui conviendrait.
Non, là, c'est derrière pour faire un truc pareil, derrière, faut que ton équipe ce soit béton.
Hein. Même dans une entreprise privée lambda, d'ailleurs. Entre concurrents, bref. On en parlera tout à l'heure, dans le détail, avec Gary. Mais pour l'instant, l'équipe de France, Bradley Barcola tout à l'heure en conférence de presse, et Fabrice Hawkins qui est avec nous. Fabrice, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Fabrice.
Barcola est doué donc à 48 heures du match face au Paraguay. Il y avait forcément beaucoup de questions. Est-ce qu'on a beaucoup questionné Barcola sur sa concurrence avec Doué?
Non, pas réellement. Il y a eu.
Pourtant, c'était la question principale à lui poser, non?
Oui, mais en fait, c'est que Bradley Barcola, il répond avec
des questions. C'est toi le meilleur.
Je t'ai pas dit que la question n'avait pas été posée. Je te dis simplement que il n'y a pas eu énormément de relances, et de par le positionnement et les réponses de Bradley Barcola, bon, tu sens bien qu'il a pas très envie de se pencher là-dessus. Je lui avais posé la question d'ailleurs juste après la dernière rencontre contre la Suède, et on a bien compris que les deux s'entendaient très bien. Ils se donnent des conseils à la pause. C'est ce qu'avait dit Bradley Barcola. Donc ils ont vraiment une super entente, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain. Après voilà, eux ils sont devant le Didier Deschamps et ils vont bien évidemment se plier à son choix, qui n'est pas encore fait de ce que je sais. En tout cas, l'entraînement est en train se tient en ce moment même à Boston. Il est à huis clos évidemment, donc on peut pas voir exactement ce qui se fait, ce qui s'y passe. Mais Didier Deschamps compte vraiment les maintenir sous pression tous les deux
pour avoir la compo. Les espions.
au moins 24 heures avant le match. Écoute, on va essayer. On va essayer. Même si à mon sens, il n'y aura pas de mise en place ce soir. Pour l'instant, on y arrive toujours.
Ça ne sert à rien. C'est demain que les bébés faucons ramèneront l'info.
A priori, oui. Il y a aussi cette volonté de la part de Didier Deschamps.
Oula, le faucon, non.
Alors, le bébé du faucon s'appelle le poussin.
Le poussin?
Bah, il dit, voilà, le petit du faucon, appelé poussin.
Et le faucon, il fait pas avec la poule.
Bah écoute, ça peut aussi des poussins.
Le faucon avec une fauconne.
Et bah écoute, c'est comme ça. C'est un peu nom générique.
D'ailleurs. C'est quoi le faucon, la femelle du faucon?
Alors là.
La femelle du faucon?
Entre
les faucons quand même.
Alors attends, je te cherche ça. C'est la fauconne. Ah. C'est la faucon. FAU, c'est O2NE, n'y voyez aucune malice. On va l'écouter, Bradley Barcola, parce qu'en revanche, il a parlé du Paraguay. Et là, il fait une comparaison qui est assez intéressante. Il nous dit, en fait, moi, avec le PSG, j'ai quand même l'habitude de jouer contre des blocs bas, et c'est ce qui va se passer contre le Paraguay. On écoute.
On sait que ça va être compliqué. Après, pour ma part, je commence à avoir l'habitude avec la Ligue 1. On joue beaucoup d'équipes qui jouent bas, donc alors essayer de trouver des alternatives, se venir dans les pieds, repartir, et après, ça va le faire.
Alors, Sam.
Après, ça va le faire. Je pense que la conclusion est nette.
C'est assez intéressant, parce que est-ce que tu penses que dans le duel à distance Barcola-Doué, est-ce que Barcola est plus l'homme de la situation face à ce type d'équipe?
Face à ce type d'équipe, je dirais oui et non, mais on peut utiliser les deux. Mais c'est vrai que on a la possibilité d'avoir un Bradley Barcola qui va en profondeur. Qui va en profondeur et face à ces équipes-là, t'es obligé de chercher, même si t'en as peu, parce qu'ils jouent sur un bloc bas, mais t'es obligé de chercher le moins de petit espace dans la profondeur, et c'est avec Barcola que tu vas trouver, parce que t'as pas mal de joueurs qui demandent dans les pieds. Et si tu en rajoutes un avec Désiré Doué, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être un peu trop facile pour cette équipe de Paraguay de défendre. Mais pour moi, c'est un atout majeur d'avoir un joueur comme lui pour utiliser la profondeur. Mais ensuite, avec la qualité qu'on a...
Bah encore faut-il qu'il y ait de la profondeur, parce que si le Paraguay installe un double bus, ça va être moyennement profond.
Ouais, mais avec au moins... tu sais que c'est un joueur qui peut demander, même sur un 1-2, tu sais qu'il va redemander en profondeur. Mmh. Alors qu'on sait que Désiré Doué, il est plus dans le 1-2, tu me redonnes dans les pieds, j'essaie de trouver une frappe un peu de loin, même s'il peut rentrer dans la surface, mais il y a moins cette qualité-là pour moi d'aller dans la profondeur, même s'il n'y en aura pas forcément beaucoup. Mais oui, d'utiliser un joueur comme Barcola, ça peut être très 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 intéressant pour l'équipe de France.
Daniel, tu valides ?
Doué, de toute façon, que ce soit lui ou Barcola, si la problématique, ça doit être le bloc bas, Doué, il est largement capable de passer également en dribble, en percussion, en un contre un. Moi, je vois pas en quoi l'un apporte plus que l'autre. Ce qui fait la différence, selon moi, entre les deux en ce moment, c'est la dynamique. On est dans une dynamique où Barcola semble correspondre mieux au jeu de cette équipe-là. Je ne crois pas que ce soit le fait de jouer un bloc bas qui fasse qu'on choisisse l'un plutôt que l'autre, mais plus l'association. Et l'association du moment fait que le quatrième homme, puisqu'il y en a trois qui semblent inamovibles et que c'était juste le quatrième poste qui semblait plus indécis, ce quatrième poste, il semble aujourd'hui dans les mains de Barcola. Il en profite. C'est aussi comme ça, souvent, que se font les groupes dans les compétitions internationales, dans les coupes du monde. Il y a parfois quelques postes, on sait pas bien ce que ça va donner. Et puis d'un coup, en cours de compète, on s'attendait pas forcément. Je crois que c'est Yannick Stopira qui a raconté ça récemment dans une interview, qui disait que quand il arrive à la Coupe du Monde 86, il démarre pas pour être titulaire. Et il avait dit, il raconte dans l'interview qu'il avait dit à un des membres du staff, si on me donne une opportunité, si on me fait rentrer, plus personne ne me sortira de l'équipe. Mmh. Et c'est exactement, je trouve, c'est peut-être comme ça que va se déterminer la place du quatrième homme, mais c'est peut-être ça qui fait que Barcola est en train de s'emparer de cette quatrième position d'attaque. Mais je crois pas que ce soit lié au fait de jouer bloc bas ou pas bloc bas. Ouais, oui, on le sait que c'est un bloc bas, le Paraguay. Mais parfois, il y a des dynamiques, des moments de confiance. Doué ne semble pas être dans ce moment alors qu'il marche sur l'eau avec le PSG. Et là, Barcola, dès qu'il est rentré contre le Sénégal, il y a eu cette étincelle et cette finition qui, en plus, c'est pas complètement son fort. À Barcola, de la finition, souvent on lui reproche de mieux démarrer que de finir. Et là, il a dégagé une confiance sur ce but, bim bim bim, la balle un peu forte, un peu piquée derrière. Bon, il a ce geste pour fêter son but, très en confiance, et il a enchaîné. Et il est pas mal. Écoute, voilà, il s'est emparé, il a saisi sa chance. Voilà, c'est bien, tant mieux pour lui.
Après, la réalité aussi, on en parlait, Daniel, souviens-toi, c'est que encore une fois, Didier Deschamps, il apprécie énormément Bradley Barcola, et quand il y a un choix, c'est vraiment du 50-50. Je dirais même 51-49 pour Bradley Barcola, ce qui n'est pas le cas au Paris Saint-Germain, parce qu'on parle d'enchaînement et de dynamique. Exactement. Il a quand même marqué Désiré Doué contre la Norvège, et ça n'a pas empêché Didier Deschamps d'enchaîner contre la Suède avec Bradley Barcola.
Ben, je te dis, il y a d'abord quand je parlais, oui, je parlais de la dynamique, mais parfois cette dynamique, elle naît aussi dans le regard du coach, dans cette confiance que le coach va donner à un joueur et l'autre va lui rendre immédiatement. Et dans une aventure comme ça d'un mois, sur des petites choses comme ça, ça peut jouer. Et Barcola saisit sa chance et voilà, tant mieux pour lui. Samuel, t'es d'accord qu'il y a ces dynamiques-là dans des
compétitions? Ah oui, totalement, totalement. Et surtout sur une compétition comme celle-là où on sait que tu dois être bon sur le moment, sur le match. Au final, le coach, il est obligé de se dire, la confiance.
C'est son moment, quoi. Il doit sentir que c'est son moment.
Exactement, c'est pour ça. Donc il peut pas se permettre de dire, bon, non, tu sais quoi, lui, je vais lui laisser peut-être l'opportunité, peut-être sur les matchs de poule, mais là, sur ces matchs-là, non, t'as pas ça, c'est ton moment, t'es bien. Allez, à toi de jouer.
Mais oui, en plus dans les compétitions internationales comme ça, des histoires d'hommes. Alors je veux pas lui porter la poisse à Barcola, évidemment. Je veux pas le noircir, le pauvre. Mais ça arrive que t'aies des mecs comme ça qui saisissent le moment, la dynamique, et qui pendant un mois vont mettre des buts. Et puis ça se trouve deux mois plus tard, ils mettent pas un pied devant l'autre. Bien sûr. Parce qu'ils ont été grisés. Et des histoires comme ça, on sait qu'il y en a plein. par parler, tu te souviens de Milan Baros là qui l'espace d'un été avait brillé.
Ah oui, enfin, Euro 2004.
C'est arrivé souvent ça, des mecs comme ça et tout. Bah, évidemment Barcola a prouvé avant, il prouvera encore après. Mais parfois il y a des moments comme ça où le gars se sent hyper bien, entente avec le coach, avec les coéquipiers et voilà. C'est comme quand on est ado, qu'on part en vacances un été. On a l'amour estival. On rencontre et ça fait coup de foudre.
Et après, quand tu rentres, c'est la rentrée, tu retrouves ton prof de maths.
Voilà. Et après, tu rentres à la rentrée, c'est fini. C'est fini. T'as plus le bronzage, t'as plus le goût du sable chaud, et c'est fini. Voilà.
Ça sent le vécu, Daniel.
Mais on lui souhaite vraiment pas ça, voilà.
En tout cas, ce serait un choix fort si vraiment il est titulaire contre le Paraguay, parce que c'est vrai que c'est une équipe qu'on attend retranchée derrière, et avec un profil qui...
Toi qui les suis, avoue que toi-même, tu mets ta bagnole sur le fait qu'il va choisir Barcola.
Ah mais moi je te dis depuis le début du tournoi que quand il y aura un choix à faire, si les deux sont à 100%, il choisira Barcola parce que de toute façon je suis persuadé. Voilà. mais souviens-toi, on en parlait, t'étais pas d'accord avec moi. Tu me disais que c'est Doué qui allait être titulaire. Tu te souviens de ça ou pas?
Moi,
il y a quelques semaines, on en parlait. Tu me disais dans ton. Souviens-toi, tu me disais que c'était Doué qui allait être titulaire.
Ah ouais, avant que ça commence. Ah oui, non mais avant que ça commence.
Et moi je te disais, ça va être du 50-50 et Didier Deschamps, il apprécie énormément Bradley Barcola.
Ah non, mais alors aucun problème pour le reconnaître, mais une fois que j'ai vu le début et la façon dont là, j'ai compris qu'il y avait un moment à saisir et que ça avait été fait. Après, avec le PSG durant l'année, mille fois, les gens disaient peut-être que Barcola est devant et tout. Je disais non, parce qu'on sentait que dans les yeux de Luis Enrique, il y en avait d'autres qui étaient devant lui.
Et tu as toujours eu raison sur le PSG, effectivement, quand il y a un choix à faire au PSG, il n'y a pas de souci, c'est Doué.
On va conclure sur le dossier Barcola avec Bilal qui est là au 32-16. Bilal, bonsoir.
Bonsoir les gars, comment ça va? Vous allez bien?
Ça va et toi?
Ouais, ça va, tranquille, ça va, merci beaucoup. Bah moi, pour le sujet Barcola Doué, franchement, je pense que... À mes yeux, je pense que Barcola, il a gagné sa place en équipe de France. Pourquoi? Parce qu'il est... En fait, il joue simple. Il va droit au but, il fait pas de chichi, il fait pas de détails, il rentre, il fait son jeu, il prend la profondeur, il joue simple. Quand il peut frapper, il frappe. Alors que Doué, c'est comme au PSG. En fait, Doué, c'est comme au PSG, quand il a la balle, il essaye toujours de faire son gris-gris à droite, à gauche. Il perd en efficacité. Et en club, ça se voit moins qu'en sélection. En sélection, on est en Coupe du Monde. C'est un peu plus sérieux, c'est un peu plus coriace. Et en fait, ça passe pas tout le temps. Alors que Doué, franchement, il va droit au but, en fait. Il joue simple. Il demande la profondeur. Il a la balle dans les pieds. Quand il peut frapper, il frappe. Quand il peut marquer, il marque. En plus, comme l'a dit Daniel, niveau finition, je trouve que c'est pas le même Barcola qu'il y a quelques années en arrière. Donc en fait, je pense qu'en sélection, Barcola, il a vraiment gratté et gagné sa place de titulaire, tout simplement.
Je sais bien, même à la limite de voir ça, je trouve il y a une espèce de principe de mérite, de méritocratie qui se met en place. Il y avait un rassemblement, ils étaient là au départ. Ils partaient certainement pas. Pour ma part, en titulaire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voyaient pas. Bim, le mec, il gagne sa place. Oh, bravo à lui, hein. Bravo à lui, vraiment.
Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est très sain.
Ouais, j'aime bien.
On a vu que il a pas forcément été très performant, Désiré Doué. Il fait rentrer Barcola, qui est performant, qui est décisif. Et au final, pour moi, c'est une continuité. C'est normal. C'est normal. Et dans ces matchs-là, pour moi, c'est limite la logique de continuer avec une équipe qui a gagné, qui a été performante. Pour moi, il n'y a même pas de débat entre qui doit commencer le match. L'équipe qui a commencé le match face à la Suède, pour moi, c'est exactement la même équipe qui va commencer sur le prochain match face au Paraguay.
Koundé également en conférence de presse, Fabrice. Est-ce qu'on l'a aussi, on l'a questionné sur son niveau actuel?
Oui, et il a répondu qu'il était, qu'il regardait pas tout simplement, qu'il regardait pas les critiques, ce qui pouvait se dire dans les médias, même si ça revient à lui. Parce que Samuel, tu dois le savoir, hein, mais en fait, même quand vous regardez pas les joueurs, quand vous regardez pas ce qui se dit, on vous le rapporte ou on vous envoie les captures d'écran. Donc, fatalement, il finit quand même par savoir ce qui se dit. Lui explique qu'il est vraiment
des médias ou de
en confiance
pour savoir s'il est bon ou pas. De toute façon,
oui, totalement. Et puis il dit que surtout que lui. Lui explique surtout que il est convaincu que lorsque ça va vraiment compter, et notamment sur les matchs qui vont arriver, il va montrer ce qu'il sait faire. Donc en tout cas, il garde confiance. Et il a aussi beaucoup parlé, Jules Koundé, de l'ambiance, du fait qu'ils ont tous à peu près le même âge et que c'est aussi pour ça que ça marche si bien. Et bien entendu, et ça, il pouvait pas y échapper, hein, l'attaque de l'équipe de France. De toute façon, c'est un petit peu la question qui revient souvent. Lui explique que pareil, il a quasiment jamais vu ça en sélection et que il est très impressionné par ce que peuvent faire ses copains de l'attaque.
Et puis alors, j'aimerais quand même réagir à ce qu'a dit Michel Platini. Les gars, parce que Platini s'exprime assez peu, et puis alors des fois il est un peu désabusé du foot, il regarde pas forcément toujours les matchs et tout. Il était dans l'after avec nous, rappelez-vous, il y a quelques semaines de cela pour en parler. Mais là, apparemment, Olise, ça lui plaît. Et il a dit, je cite, Deschamps sera le sélectionneur qui aura rejoué avec un numéro 10, parce qu'il dit Olise a toutes les qualités pour être un numéro 10 comme avant. Voilà ce que dit Platini. Il dit le football moderne a tendance à mettre les créateurs sur les côtés. En club, Olise joue sur le côté droit, comme Yamal qui joue sur le côté. Mais là, Didier Deschamps, et c'est l'intelligence de l'entraîneur, a su s'adapter aux qualités de ses joueurs. Et donc, il a mis Olise en 10 dans l'axe.
Ouais, je suis très content que Michel Platini, la légende, valide ce qu'on a dit il y a 48 heures dans l'after. Puisque exactement... on était exactement du même avis en constatant qu'effectivement, Olise était une sorte de 10 à l'ancienne. C'était le retour du 10 qui n'existe plus dans le foot moderne. Alors, il faut également préciser que le rythme d'un match de Coupe du Monde n'est pas celui de la Ligue des Champions. Que au Bayern, s'il joue en Ligue des Champions avec son équipe du Bayern en étant positionné derrière l'attaquant, ce sera peut-être pas aussi simple qu'avec l'équipe de France. On est sur des, il suffit de regarder les sprints à haute intensité, les kilomètres parcourus, on est quand même sur des matchs qui se jouent à des intensités moindres. Ça laisse un petit peu plus de confort et quelques secondes, dixièmes de secondes de plus pour prendre les décisions et activer les fameuses passes magnifiques qu'il réalise et qu'il fait dans les matchs. Ça peut compter également, mais de toute façon, il est bon partout. De toute façon, c'est un super joueur. Donc peut-être qu'en club, il retrouvera sa place sur le côté. Mais là, en tout cas, dans cette Coupe du Monde et dans ces matchs-là, où pour l'instant, il n'a pas subi une immense pression, sa qualité technique plus un petit peu un peu plus de temps pour décider, puisqu'on n'a pas rencontré d'équipe qui t'ont mis sur grosse pression, fait qu'il se régale.
Samuel,
c'est beaucoup pour ça que le 10 avait disparu. Hein. Il faut expliquer pourquoi il est disparu. C'est parce que l'intensité dans les matchs ne cessait d'augmenter et que le 10, qui a également besoin de temps pour organiser le jeu, avait dans un premier temps reculé. Ça donnait les meneurs reculés. Puis ensuite, effectivement, était un peu décalé sur le côté. Là, s'il a du temps comme ça, effectivement, là, il va régaler. Hein. Il va distribuer. Hein.
Donc, Michel Platini, c'était dans l'équipe. Toi, t'es d'accord avec ce que dit Platini, Sam?
Ah, je suis d'accord. C'est vrai que les numéros 10, on les a un peu mis de côté, ou pour, en tout cas, ça n'existait plus. Cette position-là derrière l'attaquant, la plupart, soit tu jouais vraiment avec deux attaquants en 4-4-2, ou soit tu jouais en 4-3-3, et le numéro 10, tu le mettais soit sur un côté, ou soit en numéro 8, mais pas en numéro 10. Et c'est vrai que ça, moi, ça me fait plaisir. Mais après, il a une qualité technique qui est, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire.
Il y a des moments où on le voyait.
C'est
pareil,
c'est caractéristique du 10 à l'ancienne.
Ouais, on le voyait entre Tchouaméni, parfois, et Rabiot.
Ouais, mais ça veut dire qu'il prépare peut-être une passe longue. Non, moi, ça me gêne pas du tout.
Ouais.
Bon, très bien.
Non, du tout, ça dérange pas, parce que ça, c'est sur la préparation d'une action, mais quand tu vois après sur la fin de l'action où il se retrouve, il est devant. Donc ça, c'est juste quand tu prépares, quand tu veux redoubler les passes ou faire bouger un adverse, mais après, il est toujours dans les bonnes zones, dans les intervalles, et non, moi, ça me dérange pas, ça.
Fabrice, et c'est pas étonnant d'ailleurs, parce que c'est simplement sur le placement, ouais, de Michael Olise, Didier Deschamps demande à Aurélien Tchouaméni de redescendre très très bas avec Dayot Upamecano et William Saliba pour relancer. Donc fatalement, il y a moins de monde au milieu du terrain. Donc c'est pas étonnant en fait de voir ou Olise ou parfois même Ousmane Dembélé revenir dans le cœur du jeu. Et tu me demandais si j'avais quelque chose à ajouter. Oui, en conférence de presse, peut-être une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue, en tout cas de Bradley Barcola, quand il a été questionné sur son avenir au Paris Saint-Germain. Il a dit qu'il allait voir, qu'il ne savait pas pour l'instant, et que donc il a ouvert la porte entre guillemets, hein, en expliquant que pour l'instant il voulait pas s'en soucier et qu'il verrait ce qui se passe pour lui après la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un feuilleton évidemment qu'il faudra suivre avec intérêt après cette Coupe du Monde, l'avenir de Bradley Barcola à Paris ou pas.
Merci Fabrice, tu suis le dossier, tu nous tiens informés évidemment.
Avec plaisir.